bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Canu au 102.2 et maintenant, c'est le début d'In et Noir, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir, c'est toujours Radio Canu, le 102.2, et maintenant on va débuter avec Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et je vais laisser la parole pour les traditionnelles annonces.
Bonsoir. Bonsoir, on va faire donc les annonces en Bonsoir. Plusieurs voix. Je commence de mon côté pour ce samedi sur Lyon, le 18 mars, à l'appel de la coordination Stop Buget, une grande action contre le nucléaire. Alors, j'ai pas bien compris par contre pourquoi ça a été décalé d'une semaine, parce que du coup il y avait pas mal de manifs contre le nucléaire la semaine dernière, et il y en avait une notamment à Lyon aussi, et mais là, du coup c'est de nouveau une manif, c'est donc pour la centrale du Buget qui est aux portes de Lyon, hein, qui a presque 40 ans d'âge comme celle de Fessenheim. Bah, cette centrale, comme nous, elle est vieille, elle était prévue pour un fonctionnement pendant 30 ans, là elle est déjà 10 de plus. 4 vieux réacteurs sont encore en fonctionnement et le centre ICEDA, plaque tournante de déchets nucléaires, sera bientôt en service. Alors on se rappelle, on avait fait une manif il y a quelques années dans le Buget. Voilà, une belle manif, hein, il y a quand même pas mal de monde, c'était plutôt sympa. Et donc là, ça vient sur Lyon. Donc c'est de 13h à 17h sur les ponts lyonnais. Alors il y a une action sur chaque pont, à une heure de décalage à chaque fois, donc sur tous les ponts du Rhône, voilà, et pas de la Saône, sur les ponts du Rhône. Vous allez pouvoir y voir sur Rebellion, il y a l'affiche du coup avec les 5 ponts et l'heure à laquelle il faut y aller. Et une fois que les actions sur les ponts sont finies, il y a un rendez-vous à 17h30 sur la place Louis Pradel, donc au métro Hôtel de Ville. Donc ça, c'est ce samedi 18 mars.
Alors pour moi, le dimanche 19 mars, donc le lendemain, c'est un barbecue, vous êtes conviés, nous sommes conviés tous et toutes, un barbecue de soutien pour le comité Vérité et Justice pour Mehdi. Que dire encore sur Mehdi? On se rappelle que c'est ce jeune homme qui avait été tué en scooter par des flics. Et contre, bien sûr, toutes les violences policières, en parallèle donc avec la grosse manif à Paris, si je m'abuse.
Du coup, le même jour, c'était fait exprès.
Bah, contre les violences, toutes les violences policières. Ce barbecue donc, de soutien est à partir de 12h au parc des Minguettes, donc à Vénissieux, c'est sur le plateau des Minguettes. Voilà. On peut y accéder par le bus, il y a le tram aussi qui y va, enfin bref. Voilà,
tout en sachant. On peut juste dire qu'a priori ça a quand même pas ouais, je prends la parole, mais ça a pas calmé les flics, parce que le week-end dernier il y a eu une affaire similaire avec un autre scooter de renversé. Deux,
il y a eu à la Duchère et à Rieux.
Voilà.
Eh ben.
Donc la technique des policiers municipaux, voilà, c'est cool, à Rieux-sur-Rieux c'était des policiers municipaux, mais du coup la technique du pare-chocage sur les scooters. Qui font que, du coup, il y a des bobos à la fin. Donc là, le gars, il est sorti, en tout cas, pour ceux de Rieux, il est sorti des urgences. Enfin, du coup, son policier vital n'est plus engagé.
Ouais, et à la Duchère, je crois qu'il n'y a pas eu de blessés graves.
Donc voilà.
Alors, du coup, la troisième annonce, c'est un coup. Un concert de soutien aux réfugiés LGBT. Donc, c'est organisé par le collectif The Big Tape et le collectif Lesbien Lyonnais. Ce sera à partir de 20h au Tutu à Villeurbanne, à prix libre. Il y a une scène ouverte à partir de 21h, du coup c'est scène libre, donc on peut amener texte, danse, tout ce qu'on veut, instruments, tout ça. Après, à partir de 22h, il y a trois représentations, donc un groupe qui s'appelle Émasculation, ce sont des chansons à texte misandre. Ensuite, Jade, c'est un duo vocal cordesque et engagé, et Nadia qui va nous mixer de l'alternative électro-noise. Donc, ensuite, il y aura des performances surprises, et à la fin, une boum. Du coup, ce sera à peu près jusqu'à 5h du matin. Et voilà, donc du coup, c'est ouverte à tous et toutes, mais le mot d'ordre, c'est quand même de pas amener de relou, de macho, d'homophobe, tout ça, parce que, bien sûr, c'est une soirée en soutien LGBT, donc voilà.
Et du coup, le tutu, juste, c'est au 77 rue Magenta.
Et du coup, on finit du coup avec une dernière annonce avec la Maison de la Mésopotamie qui invite à une marche au flambeau pour la fête d'une Ève Rose. Donc ça se passera lundi soir à 19h place Bellecour. Donc voilà, je vous invite à venir allumer le feu d'une Ève Rose. Voilà, après la marche, bah, la fête continuera place Mazagran autour d'un feu. Juste pour expliquer ce que c'est le Ève Rose, donc c'est une fête traditionnelle pour célébrer le nouvel an basée sur le calendrier persan. Pour la petite histoire, et voilà, vous mourirez moins bête ce soir, il s'agit du premier jour du printemps. L'origine d'une Ève Rose s'appuie sur la légende de Kawal Forgeron qui s'opposa selon la tradition au roi Diak, un tyran qui faisait régner la terreur sur tout le pays. Mais depuis le partage du Kurdistan par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale en 1923, Ève Rose a pris une signification politique dans les quatre parties du Kurdistan. En effet, cette fête a été longtemps interdite car elle était le symbole le plus visible de la culture et de l'identité kurde que ces États souhaitaient anéantir. Donc ça se passera lundi soir 20 mars à 19h. Voilà, place Bellecour. C'est tout bon pour les annonces.
Ok, et eh bien on va laisser la parole
à toi.
Donc oui, la semaine dernière j'avais annoncé un rassemblement par rapport aux mutineries qu'il y a eu dans la prison de Valence. Donc les peines sont tombées, donc ce vendredi 10 mars, c'était jugé à Valence deux détenus pour la mutinerie qui s'était déroulée le 27 novembre dans la maison centrale de la même ville. Donc ce procès n'a pas fait grand bruit dans les médias mainstream, alors que le directeur de cette prison s'est fait jeter par le ministre de la Justice le 1er décembre 2016, quelques jours après la mutinerie. Interrogé ce jeudi lors de la séance des gestions au gouvernement par le sénateur drômois Gilbert Boucher, donc du Parti Les Républicains, sur le centre pénitentiaire de Valence, 4 jours après la mutinerie, Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, a répondu « Une mutinerie dans un quartier de maison centrale, c'est exceptionnel. » Après le 12 septembre et le 25 septembre, c'est la troisième fois qu'il y a des difficultés dans cet établissement. J'ai demandé une inspection des services pénitentiaires. Le garde des Sceaux a par ailleurs précisé que dans le bâtiment impacté par la mutinerie, les dégâts sont considérables, manifestement agacés. Il ajoute enfin, diriger un établissement, c'est une responsabilité. J'ai demandé au directeur de l'administration pénitentiaire de tirer des leçons de l'inspection et de me proposer des mesures aussi évidentes que logiques. J'attends des propositions demain matin. Alors que les prisonniers luttaient pour leurs conditions de détention, comme d'hab, ils prennent cher. Ils seraient condamnés à 5 ans de prison ferme pour avoir agressé un surveillant du centre pénitentiaire de Valence et pris part à l'incendie qui a dévasté plusieurs cellules, causant de très lourds dégâts. Voilà ce que décrit le Dodé. Donc bien que malgré les magistrats, malgré les avocats et même malgré les prévenus eux-mêmes, le procès hier des deux détenus soupçonnés d'être à l'origine de la mutinerie qui a touché la maison centrale de Valence le 27 novembre dernier est devenu au fil de l'audience le procès de la prison et des conditions de détention. Et malgré tout ça, alors que les prisonniers sont enfermés dans des conditions de merde, et alors qu'on les soupçonne et les condamne sans réelle preuve, la justice rajoute une couche. On attend patiemment des écrits sur ce qui s'est passé exactement vendredi dernier au tribunal de justice. On exprime toute notre solidarité avec les mutins qui vont encore devoir passer 5 ans derrière les barreaux en plus.
Alors, pour continuer, je vais vous lire un appel féministe à soutenir le non au référendum en Turquie. Parce que c'est un référendum qui renforce les attaques du patriarcat et de l'État-nation contre les femmes. Le 16 avril 2017 aura lieu en Turquie et au Kurdistan du Nord, Bakour, un référendum à l'initiative du président turc Erdogan. Ce référendum vise à changer la constitution pour passer d'un système parlementariste à un système présidentiel. Il s'agit d'un pas de plus vers la consolidation d'un régime dictatorial, d'Erdogan et de son parti, l'AKP. Ces dernières années, et particulièrement depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, le gouvernement de l'AKP s'attaque à toutes les personnes qui s'opposent à son pouvoir. Une partie de ces attaques étatiques vise spécifiquement les femmes et renforce la violence patriarcale. Cela passe par une promotion de la maternité doublée d'une remise en cause du droit à l'avortement et de la stigmatisation des femmes qui n'ont pas d'enfants, des accords de l'État avec le patronat pour mettre en place des formes de travail salariés précaires et sous-payés à destination des femmes exclusivement, dans le domaine du travail domestique et de soins, Les déclarations publiques ouvertement sexistes, qui ne sont qu'une expression parmi d'autres de la légitimation par le pouvoir d'État des représentations patriarcales les plus misogynes. Des licenciements massifs de toute personne suspectée d'être opposée au président, et ce dans les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, comme dans l'enseignement primaire et secondaire. L'arrestation et la déshumanisation systématique des femmes identifiées comme militantes. Arrestations, tortures et menaces de viol, exposition des corps dénudés dans les réseaux sociaux après leur exécution. Dépression et intimidation permanente pour empêcher les manifestations du 8 mars. Une mise sous tutelle des municipalités kurdes avec pour conséquence une remise en cause de la représentation politique des femmes élues et la fin des dispositifs de lutte contre les violences sexistes. Un appel à soutenir la résistance des femmes en Turquie et à Bakou. En Turquie et à Bakou, les femmes s'organisent et résistent au quotidien face à ces attaques. Elles savent que le renforcement du pouvoir présidentiel ne peut que renforcer l'hétéropatriarcat, l'État-nation et la guerre du système contre les femmes. En tant que féministes, nous appelons à soutenir l'initiative des luttes menées par les femmes en Turquie et à Bakou contre le référendum. C'est par les solidarités que nous nous renforcerons partout où nous sommes. Être solidaire avec leur lutte, c'est dénoncer le silence complice de l'Union européenne et de la France face à la politique répressive et réactionnaire de l'État turc. Vive la lutte des femmes et vive la solidarité internationale. Voilà, voilà.
Voilà, on fera un petit point tout à l'heure, justement sur ce dont vous avez sûrement entendu parler, là, ces meetings interdits en Allemagne, aux Pays-Bas, du coup, par rapport au référendum, on fera un petit point tout à l'heure là-dessus aussi. Donc du coup, je crois qu'on va passer une première petite pause musicale, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Mais on va commencer.
Ah pardon, voyez. Du coup, je reviens tout à l'heure. J'avais une annonce du coup, mais qui était sur clé USB, mais du coup, le fichier n'est pas compatible. Et donc, je m'excuse auprès de la copine du coup qui avait enregistré cette annonce-là. C'est pour un événement qui a lieu demain, du coup, avec une féministe arménienne. Et ce qu'on fera, du coup, on l'avait déjà fait, hein, du coup, la semaine dernière, il me semble, l'annonce pour cette activité-là. Et ce qu'on fera, c'est que sur le blog de la radio, du coup, on mettra son extrait audio qui annonce, du coup, l'événement de demain. Donc voilà, puis on s'excuse qu'on n'a pas avoir pu passer là tout de suite, mais vous pouvez le retrouver sur le blog de la radio.
Ça se passait où
Je ne me souviens plus du tout, parce que je n'ai pas le papier, je l'ai fait la semaine dernière. Et voilà, mais du coup, je mettrai l'extrait audio, voilà.
D'accord.
Donc on s'excuse.
Ok, bon ben maintenant on va donc envoyer la première pause musicale avec les Concasseurs et le titre de la chanson, ben j'en sais rien, c'est pas marqué sur le CD.
Il y en a pas,
donc, on verra bien. Oui, c'est des punks.
c'est reparti pour Radio Canaille avec Kid et Noir, l'émission de la coordination des groupes d'anarchistes. Eh oui, je l'ai dit.
Et donc on va enchaîner avec un premier jet de lutte sociale.
C'est ça.
Tu as lâché le micro.
Ah mais j'ai vu que ouais, tu voulais bien sûr prendre la parole. C'est bien sûr. Je t'ai laissé la place.
Donc jetons les luttes sociales, voilà, au peuple qui nous écoute. Pour qu'est-ce que vous voulez. Il faut bien démarrer, hein, c'est une entrée en matière. On va aller à Montrouge, dans le département 92, c'est juste à, ça jouxte la capitale, hein, Paris, donc avec le lycée Maurice Genevoix. Et pour se faire entendre, ben, les Genevoix, des lycéens et lycéennes, personne n'a fait attention à mon... ma petite plaisanterie.
Non, du coup, j'attends comme ça à Paris. Ouais.
Donc, les lycéens, lycéennes, enseignants et enseignantes de concert ont grévé. C'était le 27 février pour dénoncer les conditions de travail. Le nombre d'élèves grandissant et pas d'embauche de profs en même temps. Donc, pas d'ouverture de classe non plus. Donc, un surnuméraire d'élèves. 60%, 70% de grévistes, des barrages filtrants, à l'instar donc, de tout bon ouvrier, hein, en fait. Ça s'est passé comme ça. Une manifestation et des assemblées générales. Ils dénoncent évidemment les 35 élèves par classe et c'est pas classe du tout. À Clermont-Ferrand, il y a eu aussi des débrayages. C'était le 3 mars chez Beuralia, qui est du groupe Candia. Annulation d'accords. Enfin, ce qui a mis la colère, hein, ce sont des annulations d'accords d'entreprise donc, qui ont amené cette grève pour une centaine de salariés sur 180. Et c'était une grève illimité. Suite, donc cette colère est venue à une fusion entre Sodial et Candia. Des accords intéressants pour les travailleurs et travailleuses de Beuralia ont été renégociés, et qui plus est à Paris, par des organisations qui n'avaient absolument rien à voir avec le site de Clermont-Ferrand, donc ça a foutu la colère. Et qui plus est, ben, ces avantages, disons, Beuralia, ont été obtenus après des années de bataille. Alors, bilan, ben, perte d'heures travaillées, enfin le paiement d'heures travaillées, de nuit également, et supplémentaires, donc tout ça va passer à la trappe. Et en contrepartie, eh bien, la direction a proposé des horaires flexibles, des conditions de travail évidemment déplorables, de la pression et les relations dites humaines qui ont disparu complètement de la circulation. Alors bilan, ben, ça fait des arrêts de travail à gogo. Alors les salaires, en ce qui concerne les salaires, ben, il y a eu aussi des négociations à Paris. Hein, la direction a proposé 11 euros bruts mensuels, alors que ben, c'était revendiqué à plutôt à 50 euros par les salariés. Voilà. Donc ça a amené cette grève. À Trappes, dans le 78, c'est une grève sur la plateforme logistique de XPO Logistique. Je rappelle que c'est ex-Norbert d'Entresangle, hein, qui a été repris par cette société. Une grève donc début mars qui concerne 16 salariés préparateurs de commandes d'un prestataire que je nommerai GE Gel Paris Ouest. Et ils apprennent, ces 16 préparateurs de commandes, que par leur bulletin de salaire, qu'ils sont désormais employés de GE Ouest. Donc un troc, j'allais dire, spécialisé dans le domaine des ressources, c'est spécialisé dans le domaine des ressources humaines. Alors leur métier, ben, c'est l'expertise en ressources humaines appliquée à la logistique. Il faudrait peut-être qu'ils s'appliquent à la relation humaine tout court, en fait, au bout du compte. De plus, chez XPO, ben, c'est la Légion, en fait, dans les conditions de travail. 190 colis à l'heure, sinon, ben, c'est la porte. Pas de prime, rien. Dans leurs revendications, ben, ils exigent être reconnus comme salariés d'XPO et pas comme de simples intérimaires, avec leur syndicat SAP, syndicat anti-précarité. Alors j'étais chercher un petit peu ce qu'était ce syndicat. C'est l'union des SAP créée en 2008 et qui depuis a amené pas mal de foudre sur son réel rôle de syndicat de salariés. Notamment, c'est la CGT qui a réagi avant les élections dans les TPE. Et pour se faire une idée, je conseille d'aller sur le site de SAP pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Il devait être reçu donc par l'inspection du travail. Je n'ai pas eu de suite à cela pour le moment. À Saint-Amand-les-Eaux, c'est dans le Schnorr, avec une semaine grévée au 7 mars chez Simons. C'est du groupe Percevin, depuis mai 2016. Ils ont été rachetés donc par Percevin. Le groupe précédent, Koval, a capoté. Redressement judiciaire et toute la panoplie, évidemment, de procédures à subir par les salariés pendant ces moments-là. Trésorerie très pauvre, menace de fermeture. Bref, avec la reprise par Percevin, moins de mauvais sang, mais un œil vif et vigilant. Chat échaudé, je dirais, craint l'eau froide. C'est un dicton de plus qui n'est pas vain, en fait, dans cette affaire. Et c'est plutôt même une heureuse initiative des salariés, 185 personnes quand même, qui a été conservée. Car 9 mois après la reprise, par le fonds d'investissement Percevin en question, la météo sociale revient à l'orage. Les NAO, point de résultat encourageant pendant cette négociation. Grève pour tous et toutes, avec l'intersyndicale, CFDT, FO, CGT et la CFTC. Dénonciation positive de la disparité des salaires d'un site à l'autre, qui quand même émarge à 200 à 600 euros. Alors ça, c'est pas classe du tout, mais plutôt lutte de classe. La remise aussi à jour demandée donc la remise à jour sur les salaires est demandée et un plus de 3 à 5%, alors que la direction propose un minable 0,5% et 4 ans et 40 euros net en prime vacances. Alors là, évidemment, personne n'était d'accord. Il y a eu un blocage de l'usine, les camions sont restés à la porte, pas de matelas, pas de sommier livré. Donc, il y a eu un miracle finalement derrière ça, c'était le 8 mars avec une reprise du travail. Oui, mais on ne pouvait pas aller plus loin, ça c'est le message de l'intersyndicale. Bah oui, ils ne pouvaient pas aller plus loin financièrement parce qu'on sait que les grèves ça coûte cher aux salariés quand ils s'y mettent. Et puis il y a eu ce petit effort de la direction à 1,5 d'augmentation, puis 2% arraché, on peut dire que c'est le mot. Une prime de transport. Il y a eu un mieux là sur la prime de transport, des offres sociales aussi avec des primes vacances à 100 euros brut et du coup on manquera pas de matelas dans les prochaines semaines. Tout ira bien.
Et je rajoute juste une petite lutte. Alors vous avez sûrement entendu parler là le 7 mars, il y avait une manifestation dans le domaine du social, de l'hôpital, et ce jour-là, il y avait eu un nouveau suicide d'une infirmière. Et ben quelques jours plus tard, c'est un cheminot, du coup, syndicaliste, qui a mis fin à ses jours. C'était un délégué du personnel et militant Sudrail de Paris, Saint-Lazare. Donc il y a eu un trac du coup qui a été fait notamment par Sudrail, Solidaire. Depuis plusieurs années, il était attaqué par une direction qui ne supportait pas son engagement syndical, mis au service de la défense de ses collègues et sa lutte contre les injustices. Il y a eu diverses du coup mesures discriminatoires à son encontre qui ont été reconnues et condamnées par la justice, des actes de pression hiérarchique. Dernière attaque du coup de cette direction, un conseil de discipline qui l'avait condamné à un dernier avertissement avant licenciement avec 12 jours de mise à pied. Et un déplacement disciplinaire pour avoir eu, entre guillemets, un regard menaçant envers un directeur d'établissement. Voilà, le déplacement par mesure disciplinaire venait de lui être signifié sans aucun respect des règles. En effet, c'était un salarié RQTH, donc avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et cette mesure aurait dû passer donc par le CHSCT. De plus, la direction n'ignorait pas que son médecin préconisait depuis plusieurs années pour sa santé qu'il reste dans son environnement de travail et interdisait tout déplacement. Donc voilà, donc suite à toutes ces pressions, ce militant a mis fin à ses jours. Et du coup, il y avait un rassemblement aujourd'hui, à 10h30. C'était du coup à la gare Saint-Lazare pour rendre hommage du coup et demander justice pour le camarade Edouard, victime de la répression anti-syndicale. Et donc c'était du coup un appel intersyndical avec la CGT, Sudrail, CFDT, UNSA et FO. On vous donnera des news la semaine prochaine pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé aujourd'hui de suite et de comment s'était passé le rassemblement, mais on vous donnera des nouvelles assez rapidement. Mais en tout cas, que ce soit à la poste, dans les hôpitaux ou dans le rail, les suicides se multiplient en ce moment. Service public.
Ouais, et j'ai pas toutes les informations, mais cette semaine aussi, il y a une infirmière qui a tenté de mettre fin à ses jours devant son hôpital, alors qu'elle avait été une énième fois changée de service dans la même journée après un nombre d'heures supples pas possible. Donc ça enchaîne.
Ça commence à faire beaucoup, ouais. On parlait beaucoup d'Orange à l'époque, maintenant tous les services publics sont touchés.
Et, ouais, et puis dans le milieu hospitalier, ouais. Avec toutes les suppressions de postes qu'il y a, on voit bien que là ça commence à être vraiment très très dur à supporter pour tout
tous les personnels. Donc, voilà. On va enchaîner maintenant, je crois, avec une brève sur le lycée Doineau.
Allez. Oui, donc il y a eu un blocus hier suite à une grève des lycéens du coup de lycée Doineau, donc à Vouvant-Velin. Donc qui ont même décidé de maintenir le blocus jusqu'à aujourd'hui. Donc à 8h ce matin, alors que la police était déjà présente sur les lieux depuis 7h30, une centaine d'élèves ont mis en place un barrage filtrant informatif. Donc aucun matériel n'a été utilisé. Ils étaient simplement devant en tas et laissaient entrer le personnel et les élèves qui souhaitaient vraiment aller en cours. Donc le blocage s'est déroulé dans le calme de 8h à 10h. Les profs, n'ayant aucun élève dans leur cours, venaient à l'entrée afin de discuter avec les élèves et essayer d'empêcher tout affrontement avec la police. Les lycéens et lycéennes en ont profité pour discuter entre eux et ont commencé à écrire leurs propres tracts et banderoles pour les prochains jours de grève. Aujourd'hui, autour de 10h30, des poubelles sont amenées devant le lycée afin de marquer matériellement le blocus du lycée. La bague déboule de nulle part et prend en tenaille les lycéens et lycéennes afin d'interpeller deux d'entre eux de manière assez violente. Des personnels du lycée qui s'approchaient se sont fait insulter copieusement, et devant la rapidité de la violence et d'interpellations, le reste des lycéens n'ont pas eu le temps de réagir. L'un des deux jeunes a été emmené directement en garde à vue, alors que l'autre a été emmené dans un fourgon positionné en face du lycée, qui est ensuite terminé en garde à vue. Donc pour l'instant, il n'y a aucune information sur leur remise en liberté, ni sur leur motif d'interpellation. Voilà, donc c'est des infos toutes fraîches d'aujourd'hui.
Ouais, j'en profite, je rajoute des choses qui n'étaient pas prévues, je m'excuse, mais du coup il y avait aussi une autre raison, mais du coup il y avait un collège, le collège au gratte-ciel à Villeurbanne, qui a été occupé dans la nuit de jeudi à vendredi la semaine dernière, suivi d'un rassemblement le lendemain devant le rectorat, avec du coup une délégation de parents et de profs qui étaient reçus, tout ça un peu comme d'hab, hein, sur une fermeture de classe, et donc du coup des classes qui seraient l'année prochaine à plein d'élèves, au moins une trentaine, voilà, pour les différentes classes des collèges. Donc on suivra aussi ce qui se passe du côté de ce collège des gratte-ciel. Du coup on enchaîne avec toi, je crois.
Ouais, tout à fait.
Ah,
et
pardon.
Oui, c'est toi.
Alors,
c'est elle qui a fait de parler.
Du coup, je vais vous lire encore un communiqué du coup qui reprend un peu le truc du 8 mars. Donc en fait, c'est un collectif afroféministe de Paris qui s'appelle le Moisi. Alors ça s'écrit MWASI. C'est pas Moisi pourri. Donc voilà. Alors, se déploie autour du 8 mars toute la machine libérale de la dépolitisation des luttes féministes. Cette année encore plus, au vu des enjeux de l'élection présidentielle, tout le monde y met son grain de sel. En tant que collectif afroféministe, le collectif Moisi, ça sonne quand même vraiment le collectif Moisi avec un grand M, inscrit sa lutte contre le patriarcat dans un anticapitalisme pensé depuis les positions de coloniser de l'intérieur que nous subissons en France. Nous réaffirmons la nécessité de renforcer et développer notre conscience politique par nos actions, la réflexion sur les enjeux de lutte et les théories politiques afroféministes. Nous restons en lutte contre la négrophobie et affirmons notre droit à l'existence, la libération et au bonheur. Hashtag les vies noires comptent. Nous réaffirmons notre intransigeance face à la culture du viol, les violences conjugales et de leurs impunités qui sévissent en France, encouragées par l'État, sa police et sa justice, mais aussi les médias et l'élite culturelle française. Nous sommes déterminés à lutter contre toute atteinte aux droits des femmes à disposer de leur corps. Notre attention porte particulièrement sur criminalisation de plus en plus fréquente de l'avortement en France. Nous réaffirmons nos droits absolus sur nos corps dont nous n'avons pas honte. Qu'ils soient couverts ou non, nos corps ne sont pas des objets à exotiser, ne servent pas à quantifier notre niveau de liberté, mangez-vous mort les islamophobes, ou de respect de soi. Ce droit absolu s'applique aussi dans le cadre des violences médicales, notamment gynécologiques et obstétriques. Nous réaffirmons notre mobilisation contre l'État réactionnaire raciste et néocolonial qui produit l'État policier, le complexe industriel de la prison et les guerres impérialistes qui tuent et exploitent nos communautés, que ce soit en France, dans les colonies départementalisées ou dans les pays du Sud. Nous réaffirmons notre résistance contre le système économique de la suprématie blanche, qu'est le capitalisme, et l'importance cruciale de cette question dans notre lutte féministe afin de viser une société sans classe. C'est pour cela que nous nous opposons à toute célébration de la féminisation des élites capitales. Travailleuses, chômeuses, précaires, nous sommes en solidarité avec les mouvements de grève et contre le patronat. Nous réaffirmons notre engagement dans les luttes politiques queer et trans révolutionnaires et décoloniales et réaffirmons leur légitimité dans le mouvement social global. Nous tenons à rappeler tout notre mépris et notre dégoût face aux instrumentalisations du féminisme à des fins racistes et impérialistes, fémonationalisme, par la team féminisme blanc. Vous voir plus intéressé de savoir si on entre dans les bars PMU qu'en école de médecine en dit long sur vos intentions. Hashtag conseillère de désorientation. Nous encourageons nos cistas à rejoindre les collectifs militants afin de travailler à l'abolition du système blanc-triarcal capitaliste. L'afroféminisme militant se forge dans des collectifs, même s'ils ne sont pas non mixtes, car nous savons que nous ne vivons pas toutes dans des régions avec une forte communauté noire. Nous nous engageons dans les débats et manifestations du 8 mars pour porter un discours afroféministe révolutionnaire pour un changement radical de la société. Ce changement ne peut avoir lieu dans un cadre libéral qui pousse à l'individualisation plutôt qu'à la lutte collective. Moisi collectif. Et voilà.
On vous conseille aussi, parce qu'il y a pas mal de communiqués de différents groupes. Pareil pour le 8 mars, communiqué de camarades des LOX, Lesbian of Color, qui du coup, elles avaient axé leur solidarité ce jour-là avec les femmes réfugiées isolées. Et le rassemblement, ils étaient aussi à la mémoire de Oula. Alors, Oula, c'est une jeune femme réfugiée syrienne qui était demandeuse d'asile, arrivée en France en décembre 2015. À peine une année où Oula vit 6 mois d'errance résidentielle avant d'intégrer une structure de mise à l'abri, une prise en charge trop tardive, le moral affecté, le choc profond, les violences indélébiles, la fatigue morfonde, les hospitalisations répétées, un avenir flou. Oula tiendra encore 5 mois avant de mettre fin à ses jours, le 28 novembre 2016, dans le pays qu'elle avait choisi pour se réfugier. Elle avait 26 ans et, disait-elle, rêvait d'étudier le droit pour défendre le droit des femmes et des enfants. On vous laissera donc lire, vous le trouverez très facilement sur le net, ce communiqué. Juste, voilà, juste pour vous lire la fin, en fait. Donc, nous, groupe LOX, donc Lesbian of Color, dénonçons donc le dispositif d'accueil et d'accompagnement qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de ces femmes au point d'attenter à leur vie. Il faut savoir qu'il n'y a pas tous les lieux d'accueil. Du coup, il y a pas mal de lieux en mixité avec un grand danger pour les femmes isolées ou avec leurs enfants. Donc, ce groupe-là exige aussi que l'approche genre soit transversale aux différents services de l'OFI. L'OFI, c'est eux qui gèrent l'hébergement des réfugiés pour une prise en charge immédiate afin d'accélérer la procédure de mise à l'abri des demandeuses d'asile et des femmes primo-statutaires. Demande aussi la création d'un centre d'hébergement exclusivement non mixte avec une perspective d'accompagnement global vers une autonomie effective. Recommande aussi que les employés des structures d'accueil soient formés et sensibilisés à la situation particulière des femmes réfugiées. Rêvons que les forces féministes et lesbiennes s'allient pour une solidarité politique d'action en faveur de l'hébergement non mixte des femmes réfugiées et en refusant qu'il y ait d'autres Oula, donc du coup qui a mis fin aussi à ses jours suite au traitement qu'elle a subi ici en France. Du coup voilà, je ne sais pas ce qu'il y avait prévu derrière.
Derrière c'était une pause musicale, tout simplement.
Et bah, c'est parti,
on va enchaîner avec Jean Ferrat et la chanson s'appelle Les Nomades.
Ils sont nés près de Barcelone, ils ont grandi en Australie, ils se sont aimés à Paris, mais ils s'en vont encore d'ici, les nomades. Ils ont habité la roulotte, les quatre planches qui cattent, de Saint-Ouen ou Sainte-Marie. Mais ils s'en vont encore d'ici, les nomades. Ni la couronne d'oranger, ni la cheminée de faux marbre ne leur mettent racine aux pieds. Ils ne sont pas comme les arbres, les nomades. Ils vont toujours de ville en plaine, il n'y a rien qui les retienne, c'est la route qui les mène, en dimanche comme en semaine, les nomades. Ils ont eu froid comme personne, ils ont chanté mieux que nous tous, mais c'est la route qui les pousse, avec des fifres à leur trousse. Les nomades,
soit venu du fond des âges. Tous les gitans, tous les tziganes, un violon leur a brisé l'âme. Ils en gardent parfois des larmes, les nomades. Ni la peur de mourir un jour frontalière, sans tenir la main d'un amour, ne les arrête sur la terre, les nomades. Et quand on voit sous les platanes passer les mulets et les ânes, on a beau être des profanes, on voudrait suivre la caravane des nomades.
Rebonsoir, c'est toujours Radio Canu, le 102.2 avec Idées Noires, et on va repartir avec une deuxième page de lutte sociale.
Allez, un peu plus courte sûrement. Je vous conseille d'aller du côté de Molay-Litry, c'est une jolie bourgade du Calvados. Il y a eu un conflit chez Danone, la grande maison Danone. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. C'était le 7 mars avec un blocage des entrées, activité très ralentie depuis le 6 mars même, début de cette grève sur appel de la CGT. Et là encore une fois, ce sont les négociations annuelles obligatoires qui ne fonctionnent pas et qui ont même, je dirais, une drôle de gueule. Pourtant, Danone, on s'élève et on relève la grève contre une direction qui nie le travail et la production de ses salariés. Alors, proposition de la direction, un minable 1% pour les grévistes, ça sera 3%. Mais seulement, ça change un petit peu dans les négociations à chaque fois, puisqu'ils ont descendu, on a réduit un peu la voilure, comme on dit, à 1,8%. Donc ça s'endort un petit peu, normal, puisque le délégué syndical, il s'appelle Loire. Alors, non, je m'excuse. 100 € de prime de vacances, une tranche d'ancienneté, ça sont les desiderata évidemment des grévistes, une tranche d'ancienneté supplémentaire de 18 à 21 ans de présence. Et le 7, se tenait une réunion, c'était la troisième, et toujours pas d'avancée, donc usine bloquée, suite des négociations, la direction augmentait à 1,1%, puis 1,2%, la CGT exigeait 1,5%, la suite au match retour. À Hotzwald, dans le 67, c'est en Alsace. Donc une grève chez Mecaplast, c'est un équipementier automobile. Il y a 200 salariés qui ont stoppé toute production suite à un courroux ou une colère, quoi, CGTiste et CFTciste. Autrement dit, la CGT et la CFTC associées. Donc revendication salariale à l'ordre du jour et un joli flop, puisque la direction l'a encore proposé 1,2%, voire 1,3% rétroactif au mois de janvier, avec condition toutefois que 2 syndicats sur 4 signent et dénoncer évidemment le traitement salarial et primes différents d'une unité à l'autre. On le voit souvent ça maintenant, d'une unité à l'autre. Revendication, 2 000 euros net, 97% de grévistes en production qui étaient automatiquement stoppés. C'est PSA qui va faire une drôle de gueule, puisque c'est le principal client de cette entreprise. Même motif, même punition pour le site à Villers-Bretonneux, dans la Somme. C'était le 2 mars, avec des débrayages d'une heure. Hormis les primes que je viens de citer, donc il y avait des contrats d'intérim aussi qui devaient passer en CDI. Ensuite, nous allons à Annonay, dans l'Ardèche. Ce n'est pas une lutte, mais plutôt, mettre le doigt sur une inconséquence juridique qui nous vient des prud'hommes. Celui-ci, donc les prud'hommes, a refusé à des travailleurs et travailleuses de l'entreprise de nettoyage Honnête des indemnités en préjudice de contact avec l'amiante. Ces travailleurs et travailleuses ont depuis des années nettoyé les locaux sur le site Iveco Bus à Annonay. Qui sont des locaux qui sont bourrés complètement d'amiante, une mise en danger et donc suspicion de futures maladies liées donc à cette saloperie qu'est l'amiante. Et le tribunal des prud'hommes a argumenté sur le fait, écoutez bien, que les salariés honnêtes de chez Honnête n'étaient pas des salariés de chez Iveco. Voilà. Et les a donc reboulés sur cette considération. Or, des salariés d'Iveco, je tiens à le préciser, puisque j'en avais fait une petite brève ici, à ce micro, des salariés d'Iveco, précisément, enfin des ex-salariés d'Iveco, précisément, ont obtenu des indemnités, eux, le 31 janvier dernier, 49 ex-salariés pour préjudice d'anxiété, pour exposition à l'amiante. Donc, ça fait deux poids, deux mesures. Et puis, pour terminer donc cette deuxième page, c'est à Besançon, que je dirais même que chez Jardiland qu'on fait des grèves, hein, on en trouve de partout, donc Jardiland, on s'y attendait peut-être pas trop, bah si, voilà. Il n'y a pas que des cactus dans les étagères chez Jardiland, il y en a aussi dans les poches du patronat. Il n'y a que des bas salaires chez Jardiland, les temps partiels, ouverts, pourtant la boutique est ouverte 7 jours sur 7. Alors ça veut dire égal profit, quoi, donc il y en a marre. Et le déclencheur de cette grève, ça a été des horaires augmentés d'une demi-heure de plus par jour. Leur défense, ça a été une grève d'une heure, seulement. Et c'est peu, c'est gentil même, je dirais, c'est la merde. Et si la rose a des épines, la merde, elle en a pas. Voilà.
Beau, c'est beau.
Très beau, hein. C'est très écologique, c'est très vert.
Ça nourrit.
Et ça nourrit aussi, si tu veux. C'est... Moi, personnellement, je mange pas de la merde.
Bon. Moi, je n'ai plus rien sur mon fil. Hein. Vous aviez décidé de partir en live.
Peut-être pas en live, mais en tout cas, moi, je vais vous raconter.
Si, c'est du live, je t'assure.
Ok. En tout cas, moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. On vous a parlé la dernière fois de la grève de gomme.
Ouais, j'avais annoncé mercredi dernier, donc après 25 minutes d'émission, qu'il y avait une grève qui se déroulait donc à Vez, voilà. Pour gomme.
Alors pour résumer un petit peu, gomme. Déjà c'est une entreprise qui fait dans le nettoyage, plutôt une petite entreprise, d'après ce que j'ai compris. Donc dans les endroits dans lesquels on n'attend pas le syndicalisme, mais qui est bien qu'il soit présent. Du coup, c'était une section qui était de solidaire. Ce qui s'est passé, c'est que tous les salariés se sont mis en grève d'un commun accord et ont cessé le travail. Alors, je crois que c'était vers les 20h, 21h, quelque chose comme ça. Ouais. Alors pourquoi 20h? Parce que tout simplement, c'est assez stratégique. C'est que c'est là, en fait, eux, ils s'occupent principalement du nettoyage des bus et aussi du remplissage en essence des bus. Et ce qui se passe, c'est que forcément... vu qu'il n'y a personne qui est habilité sur le site pour pouvoir faire le remplissage, du coup ça bloque toutes les bus. Du coup il commençait à avoir une bonne petite file de bus qui commençait à bloquer toute la rue. Donc ça n'a pas été aussi efficace qu'on voulait, mais en tout cas ça s'est pas mal passé, les salariés étaient plutôt contents. Du coup ça a été décidé de continuer la grève le lendemain parce que le patron s'est pointé sur le site. Il y a eu une discussion avec le patron qui était plutôt houleuse. Il parlait par exemple il disait ces gens-là, sachant que tous les employés sont majoritairement racisés par exemple, où il disait ils sont à moi, c'est ma force de travail ou des choses comme ça. Du coup on l'a un peu retaillé. Sinon ce qui s'est passé, c'est qu'en gros ils nous ont sorti le truc habituel de c'est pas on n'est pas représentatif, etc. Du coup on veut pas négocier avec des institutions pas représentatives. Du coup ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a forcé à négocier et du coup d'après ce que m'ont raconté les camarades, Sud a été invité à la table de négociation le lendemain, sauf que les revendications n'ont pas été satisfaites, donc actuellement on en est resté là.
On va voir comment ça continue, s'il y a d'autres actions qui se préparent, mais en tout cas, c'est pas gagné. Et, les salariés sont pas prêts de lâcher, le patron non plus.
Mais c'est assez cocasse quand même que ça soit des employés ou au ménage, enfin au nettoyage, qui doivent remplir remplir les réservoirs des bus quand même. Quand
après, ils sont formés pour ça.
Ah, ils ont été formés.
Ils ont été formés. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est qu'avant, donc il y a eu l'inspecteur du travail aussi sur le site. Et ce qui se passait avant, c'est que ils avaient en fait fait appel à des salariés qui n'étaient pas formés pour remplir les bus. Et du coup, c'était une forme de casser. C'est un cassage de grève classique. Hein. C'est du scab. Et donc voilà ce qui s'est passé. Et voilà ici, en tout cas, l'inspecteur du travail a été prévenu. Et j'espère qu'il a touché quelques mots au patron, en tout cas.
Bah, on tâchera d'en reparler donc l'émission prochaine, donc mercredi prochain, si on a des nouvelles.
On suivra
l'évolution des négociations, quoi. Voilà.
Ouais, voilà. Et il y a toujours aussi les salariés de Medialis qui sont en pression aussi. Enfin, il y a pas mal de sections dessus, en tout cas, qui commencent à se monter dans des endroits comme des associations, des milieux très précaires, dans le nettoyage, etc. Et c'est plutôt cool de voir ça, en tout cas.
Donc, ouais, moi aussi, j'ai par rapport à. Toujours assez triste à Adama Traoré. Du coup, il y a encore un de ses frères. Du coup, qui s'est rendu à la police parce qu'il était recherché. Donc actuellement, il y a trois frères de Adama Traoré qui sont en garde à vue. Donc ouais, c'est lundi, donc lundi 3 mars. Donc le troisième frère s'est rendu à la gendarmerie. Du coup, pour rappeler les faits, donc Adama Traoré a été tué, assassiné, on pourrait même dire, par les gendarmes du commissariat de Pontoise, il me semble. Oui, de Pontoise. Donc ses deux frères Youssouf et Bagui ont été accusés d'avoir frappé des policiers qui d'ailleurs eux-mêmes admettent ne pas être en mesure de les identifier. Donc Bagui Traoré a été condamné à 8 mois de prison ferme pour violence sur les forces de l'ordre, ainsi qu'une interdiction de se rendre pendant 2 ans à Beaumont-sur-Oise, sachant que c'est là où habite toute sa famille. Youssouf Traoré, lui, a été jugé pour outrage et menace de mort à l'encontre des deux agents de police. Et il a été condamné à 3 mois de prison aménageable. Donc Bagui, donc je pense que c'est tout le monde à peu près le sait, il a été remis en examen pour tentative d'assassinat et il a accusé d'avoir tiré sur les flics. Donc il avait entamé une grève de la faim. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Je n'ai pas.
Non, c'est pas non plus. Ouais.
C'est voilà. Mais en tout cas, il avait entamé une grève de la faim pour réclamer vérité et justice pour son frère, donc Adama. Donc oui, donc il y a encore un troisième frère, donc qui s'appelle. Oh là là, j'ai perdu. Donc oui, un troisième frère qui a été et qui est aujourd'hui en garde à vue, donc qui est, les gardes à vue qui ont été prolongées. Donc voilà, et donc leur sœur Assa Traoré qui appelle toujours à le combat continu, que les gendarmes qui ont assassiné Adama soient condamnés, que les frères d'Adama et les centaines de jeunes arrêtés dans les quartiers lors des éruptions de colère après son assassinat soient relaxés, vérité et justice pour Adama.
Alors, espérons qu'il y ait du monde du coup dimanche après-midi sur Paris pour cette grande marche pour la justice et la dignité. On va faire un petit tour en Turquie, donc vous avez sûrement suivi un peu cette affaire des... meetings qui ont été interdits, notamment aux Pays-Bas, donc avec des militaires turcs qui ont été interdits en Allemagne aussi, voilà, qui ont été priés de rentrer chez eux et leur meeting a été annulé. Donc ce meeting-là, on en a parlé tout à l'heure par rapport au texte là, a lu notre carrément tout à l'heure par rapport au référendum qui va avoir lieu en Turquie au mois d'avril et donc du coup pour transformer le régime qui est actuellement parlementaire en régime présidentiel, donc en donnant pratiquement les pleins pouvoirs à Erdogan. Donc voilà, et là il y a un petit article trouvé sur Kédistan, voilà, qui montre un petit peu, bah, essaie de montrer un petit peu à qui profitent du coup ces interdictions et quel est le chantage encore que la Turquie met en place pour tenir tête à l'Europe. Donc je vais vous lire ça. Donc les interdictions, entre guillemets, hein, faites au ministère turc de l'AKP de tenir meeting dans différents pays européens ou Länder allemand font éructer Erdogan. Une partie de la gauche européenne appelle au calme, à la raison. Et par exemple, hein, et on peut dire malheureusement, le gouvernement français laisse volontiers le ministre des Affaires étrangères turc tenir meeting et conférences de presse à Metz, durant lesquelles il reprend les qualificatifs de nazis à l'encontre de pays européens voisins. Donc doit-on placer le débat sur le terrain de la fameuse liberté d'expression ? Erdogan n'hésite pas à le faire et son outrance coutumière y trouve un terrain favorable. Nazisme contre nouvelle démocratie turque d'après 15 juillet, donc fameux coup d'État, voilà à peu près le niveau des discours. Et en écho, toutes les droites et extrême droite xénophobe européenne entonnent le créneau de l'interdiction de meetings islamistes sur le sol des belles démocraties. Nous voilà donc dans le fameux choc des civilisations, ou du moins son avatar. Quand tout cela se fait tant aux Pays-Bas qu'en France ou en Allemagne sur fond d'échéances électorales en cours ou imminentes, cela devient argument de campagne pour identitaires de tous bords. Nous voilà donc revenus à des instrumentalisations politiques favorables de part et d'autre au renforcement des courants populistes identitaires, avec toute la division que cela suppose et toutes les confusions et brouillages surtout. Voilà donc remis en selle le faux débat sur la Turquie et l'Europe, entre autres, qui a cours depuis plus d'une décennie. Donc il suffit d'écouter un petit peu là, tous les candidats à l'élection présidentielle qui parlent de ça, et vous verrez, c'est exactement ça. Donc pour rappel et pour faire court, donc l'accession au pouvoir d'Erdogan, qui commence à faire un petit moment maintenant, mais surtout sa crédibilité doivent beaucoup à son aura, entre guillemets, de modernisme européen dont il enfila le costume, et à l'adéquation entre les propres orientations économiques libérales de ses soutiens et la finance internationale. Vous savez que la Turquie, c'est un gros passage du coup, hein, entre le Moyen-Orient et l'Europe, et que tout ça a forcément un lien. Donc voilà, on va revenir du coup un petit peu aux meetings donc qui ont été interdites. Voilà, donc pour souligner que donc envoyer des ministres, hein, pour prêcher la bonne parole du Reich, donc le chef là-bas, était de fait une provocation totalement réfléchie, alors qu'en même temps, hein, le Conseil de l'Europe s'était divisé en ce début d'année sur une prise en compte des rapports multiples sur les atteintes aux droits humains et les menaces pour la paix et leurs inscriptions à l'ordre du jour de cette assemblée liée à la Cour européenne des droits de l'homme. Les pressions multiples du gouvernement AKP, les aides de ses nouveaux alliés Russie et l'abstention de gouvernements sociaux-démocrates européens avaient permis pour un temps de repousser l'examen politique des répressions en cours et des crimes actuels et exactions passées au bas cours. Vous savez, dans tout le sud-est de la Turquie, là, où la répression fait rage. Il était donc facile et prévisible pour un Erdogan d'enfoncer le fer dans le ventre mou européen à l'occasion de cette campagne référendaire pour son sacre. On est à la fois dans la psychologie politique du personnage et dans la nécessité de trouver officiellement des voix dans la diaspora turque. Il y a environ 3 millions de personnes en Europe, soit plus d'un million d'électrices et d'électeurs potentiels, d'essayer de la radicaliser, confronter qu'elle est de plus en plus ici à la divulgation des crimes du régime par voie de médias, même édulcorés. Garantir une marge donc pour la triche qui ne manquera pas avec les voix de la diaspora fait aussi partie de l'objectif. Mais cette aubaine pour Erdogan en est également une pour toutes les voix identitaires qui s'expriment dans les pays européens et portent le poison du racisme et de la division dans les classes populaires et pas que. Nous sommes bien loin du « je cause avec tout le monde et je laisse causer tout le monde » ou pour le dire plus politiquement correct, la liberté d'expression. En Turquie, particulièrement, les milliers de tués du bas cours ne sont plus là pour la réclamer, cette fameuse liberté d'expression. Les otages politiques emprisonnés ou en procès en cascade non plus. Les familles projetées dans la misère sociale du fait des purges et des arrestations sont autant priées de se taire que réduites au silence par la menace et la répression s'il le faut. Toutes ces paroles-là se sont éteintes, sont empêchées, et les mots rentraient dans les gorges par force. Alors interdire à un ministre des basses œuvres de l'AKP de s'exprimer peut-il être mis en balance avec ce silence de mort imposé? Ma liberté d'expression n'irait pas jusqu'à faciliter la prise de parole de l'assassin. Donc voilà pour cet article, vous pouvez finir de le lire du coup sur le Kurdistan. Et je voulais revenir tout à l'heure, on a parlé du 8 mars du coup, et notamment voilà comment ça se passe le 8 mars aussi en Turquie, lors de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, donc à Diyarbakir. Parce qu'au départ, du coup, ce rassemblement avait été forcément interdit. Et grâce à la détermination des associations féministes, a eu raison des autorités locales qui avaient, donc, dans un premier temps, interdit tout rassemblement pour raison forcément de sécurité. Comme un symbole, les nuages ont rapidement laissé place à un soleil éclatant pour les 2 à 3 000 personnes qui sont rendues à Istasyon Square. Jeunes et vieux, femmes et hommes, la foule danse et chante sur la musique traditionnelle kurde en tapant du pied sur l'asphalte. Entre deux chansons, les femmes qui se succèdent au micro appellent les droits inaliénables des femmes, trop souvent bafoués en Turquie et ailleurs. Et donc du coup après ça c'est fini, je vous lis du coup, hein, c'est Figen Yüksekdag qui est coprésidente du Parti démocratique des peuples, le HDP, qui avait été arrêté en novembre dernier. Je vous lis un petit peu un extrait de son texte. « Les femmes détruiront la dictature, le fascisme et cette perception uniquement masculine du monde. Ce ne sont pas de simples mots en l'air, une propagande féministe sans fondement. Les femmes sont les naturelles organisatrices du non, parce que nous savons que les femmes se sont construites à travers l'histoire en disant non. Lorsque nous sommes opposées, nous avons tout à fait pu continuer à vivre. Nous devenons nous-mêmes des femmes libres lorsque nous disons non à nos maris, à nos compagnons, à nos patrons et à l'État. Dès lors que nous refusons toute institution dominée par les hommes, en tant que femmes, ce que nous faisons le 8 mars, c'est de répandre cette volonté à travers la résistance et le refus, et ainsi construire nos propres alternatives. En ce 8 mars, nous crions notre pouvoir du refus, à ceux qui se pensent souverains, encore une fois, des milliers et des millions de fois, à travers les rues et les places, nous crions non. Nous construirons une autre vie. » Donc voilà, ce texte de Figen Yüksekdag, les femmes disent non. Donc voilà pour ce qui se passe en Turquie. Voilà, enfin, on fera peut-être un point un jour un peu complet et très très un peu plus poussé. Voilà sur ce qui se passe en ce moment en Turquie.
Ouais, donc moi j'ai un truc, c'est assez parce que c'est des amis du coup qui ont essayé pas vraiment d'ouvrir un squat, mais qui dormaient dans un bâtiment, donc dans le parc Blandan, qui ont eu les visites de la police bien fait, et qui 3 heures plus tard ont reçu la visite de 8 policiers qui les ont menacés, qui ont pris leur bombe de tag et qui les ont virés du coup de l'endroit où ils dormaient, et ont tagué sur les murs des symboles néo-nazis avec marqué SS, les blancs c'est mieux, tout le délire. Donc voilà, il y a 8 flics du coup qui sont rentrés et qui ont tagué des symboles néo-nazis sur les murs. Je pensais que c'était quand même assez important voilà, à dire.
Ouais, pour enchaîner là-dessus, parce que vous, j'ai un petit article que vous avez peut-être vu aussi sur Taranis News, là, ce fameux écusson là, voilà, qui fait un peu le buzz en ce moment, malheureusement. Enfin, heureusement, parce que du coup, peut-être que ça va être su, et du coup, ça va peut-être s'arrêter. Mais du coup, un écusson anti-anarchiste hein, dans la police. Alors, du coup, je vous décris un petit peu l'écusson. Hein, donc, il a été vu, il y a des prises de photos, hein, voilà, sur un petit écusson sur des flics en service. Du coup, il y a un chat noir dessus. Voilà, il y a marqué chat noir dessus. Et en dessous, il y a marqué décédé AVP Rabiot. Et donc la traduction de ce logo serait donc anarchiste, le chat en noir, hein, plus donc le décédé, bah décédé. Le AVP, c'est accident de la voie publique, on peut très bien voir à quoi ça fait référence. Hein. Et Rabiot, encore des heures sup, du coup, pour les flics. Donc voilà, cet écusson, voilà, il est apparu sur plusieurs flics, en tout cas pris en photo. Voilà, et donc,
il est
en vente libre, du coup, en vente libre sur un site internet. Et du coup, il y a forcément un lien sur une espèce de petit groupuscule bien fasciste du côté de la, donc je crois que c'est en plus c'est la BST, hein, voilà, la brigade de sûreté territoriale.
C'est pas n'importe quel site parce que c'est un site internet où se fournissent les flics pour leur voilà. Équipement perso, quoi, donc c'est des trucs officiels.
Et du coup, pour continuer sur ces petites brèves au sujet des fachos, il y a eu juste hier, il me semble, Alain Soral, donc cet homme confusionniste qui ne se cache même plus d'être un fasciste d'extrême droite, qui s'est pris 3 mois de prison ferme, donc ça fait quand même plaisir pour avoir fait des dessins antisémites et négationnistes. Donc voilà. Une petite bonne nouvelle. Ouais, ouais. 3 mois, c'est pas beaucoup.
Ouais,
mais,
ouais.
Mais c'est déjà ça.
Aussi 2000 euros d'amende d'un autre côté. Et a pris 2-3 trucs dans la tronche un peu là.
Et puis du coup, j'en profitais, on va continuer du côté des, ou au moins des citoyennistes un peu bizarres. Voilà, il y avait quelques mois, il y avait Étienne Chouard, on en avait parlé du coup, hein, du côté confusionniste, voilà, qui avait été invité à la MJC des Rancis, donc quelques-uns et quelques-unes. On a trouvé ça quand même assez bizarre que ce personnage-là, qui quand même donc faisait de la pub pour Soral et compagnie, pour des écrivains masculinistes, voire néo-nazis, soit invité dans une MJC. Donc on avait fait vite fait un petit fly, un petit tract, qu'on avait distribué à l'entrée, mais ça avait été très compliqué pour nous, parce que du coup, tous ces fans qui étaient là, ces fameux gentils-virus, du coup, nous avaient bien pris la tête. C'était en disant qu'on... Ouais. Enfin voilà, qu'on déconne, que c'est pas possible que ce monsieur-là n'était pas un fasciste. Alors bon, on avait dit hein, que c'était pas un fasciste, mais par contre, qu'il faisait un peu le lit du fasciste en mélangeant un petit peu toutes les idées. Et ben, pas plus tard qu'hier, Étienne Chouard, du coup, il a appelé à voter pour les élections présidentielles. Et donc, il a appelé à voter pour Asselineau. Donc Asselineau, c'est ce responsable d'un groupuscule qui s'appelle l'UPR. Qui doit être Union pour la République, je crois, qu'on avait viré de quelques manifs, nous, de notre côté sur Lyon. Et ce qu'il faut savoir, donc, cet Asselineau, c'était un qui avait aussi appelé en juillet dernier à un coup d'état militaire. Donc voilà, donc on remercie Étienne Chouard d'avoir trompé énormément de monde en espérant que ces gentils virus vont enfin réagir et réatterrir.
Moi, j'aurais juste complété là-dessus. Actuellement, il y a un truc pas mal aussi qui sur lequel il drive, c'est sur la question de l'anticorruption. Il y a eu pas mal de manifs ou de rassemblements, même je crois sur Lyon, dans lequel il parle d'un truc anticorps. Un collectif qui s'appelle Anticorps, en fait, et qui est une référence directe aux antivirus, en fait, tout simplement. Et qui essaie de driver le truc de la corruption pour essayer d'avoir une position souverainiste et conspirationniste derrière. Voilà. Donc, voilà. À faire gaffe.
Ouais. Peut-être pour finir, du coup, quelques nouvelles, du coup, par rapport à l'assassinat de Clément Méric. Ça fait quand même maintenant un petit moment. C'était le 5 juin 2013, hein, à Paris. Du coup, avec toujours 4, alors pas skinheads, comme c'est écrit sur le. Ou alors skinheads d'extrême droite, en tout cas 4 bonheads, du coup, qui avaient été arrêtés. Et donc, une juge d'instruction, a ordonné le renvoi, donc, devant la cour d'assises de ces 4 personnes impliquées dans la mort de Clément Méric. Donc voilà, donc deux d'entre eux, Esteban Murillo, hein, 24 ans, et Samuel Dufour, 23 ans, sont plus directement
visé. Voilà. Et la magistrate, du coup, a demandé qu'il soit jugé pour violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, en réunion et avec usage ou menace d'une arme, en l'occurrence un point américain. Ce qu'il faut savoir, ce qui pouvait faire la différence dans cette affaire, notamment par rapport à la condamnation, c'était que Esteban Morillo, depuis le début, niait le fait d'avoir utilisé un point américain et qu'a priori, voilà, si ça a été retenu en tout cas par la magistrate, c'est que c'était vraiment le cas. Et,
mais ce qui n'a pas été retenu, c'est le fait par contre qu'il y ait une intention volontaire
de donner. Voilà. Voilà. Ce qui peut se passer de temps en temps dans ce genre d'affaires, voilà. Et donc on va suivre de très près et on vous tiendra au courant, voilà, dès que le procès a lieu. Ça fait quand même déjà presque 4 ans.
Voilà, et c'était un camarade anarchiste et militant syndical à Solidaire. Voilà.
Exactement. Du coup, voilà, 20h presque pile. On va vous laisser du coup avec la lumière de frigo. On va vous rappeler. Ah non, je ne pourrais pas le faire, c'est trop gros ce que j'ai annoncé.
Si tu veux, tu peux prendre un peu de temps.
C'est vrai? Oui. Eh bien, je prends un peu de temps. J'ai pris une demi-heure, ça t'apprendra à me dire oui. Non, voilà, c'est pour faire un petit tour. C'est un article que j'avais depuis un moment. Voilà. Alors, ça a peut-être un petit peu changé depuis peut-être un mois, mais du coup, c'était pour faire un petit point du coup sur. Ceux qui entouraient du coup François Fillon, donc voilà, il maintient voilà qu'il va rester candidat malgré sa mise en examen. Alors il y a quelqu'un de nouveau qui va sûrement intégrer son équipe et pour nous à Lyon, bah, il nous dit forcément quelque chose. Hein. Le fameux Charles Millon. Alors Charles Millon, pour ceux qui ne connaissent pas, faisait partie à l'époque de l'UDF. Alors c'est l'espèce de parti centriste, hein, voilà, qui était à côté du RPR. Hein.
Comme quoi les cadavres reviennent à la surface.
Oui, tout à fait. Ouais, les meilleurs sont toujours pas morts. Hein, c'est bien dommage. Et du coup, bah, ce gars-là, Charles Millon, en 1998, lors des élections régionales, voilà, était arrivé en tête. En deuxième position et n'avait rien trouvé de mieux que de s'allier du coup avec le Front National pour avoir la majorité et donc être élu président de région. Donc c'était la première fois que ça arrivait et donc du coup il y avait toute une mobilisation contre ça et au bout d'un moment il avait été obligé de lâcher. Donc ce Millon, il avait complètement disparu de la scène politique et voilà qu'il revient à côté de qui? À côté d'un gros réal, donc à côté de Fillon. Et donc il n'est pas le seul parce que du coup il y avait un article qui date déjà d'un mois ou deux, mais il y avait un petit peu tout le beau monde qui l'entourait. Alors je vous donne quelques noms puis quelques CV parce que quand même ça fait rêver, notamment Hervé Novelli, donc qui était ancien ministre de François Fillon, donc qui est un ami, hein, voilà, qui a 67 ans. Et ben ce monsieur Hervé Novelli a un passé assez sulfureux puisqu'il est passé par Ordre Nouveau ou le Parti des Forces Nouvelles. Il a milité à Occident entre 64 et 68, puis cet ami de jeunesse de Patrick Buisson qui était donc le conseiller de Sarkozy avant qu'il était au FN, et ben a quitté ce mouvement pour cofonder quel groupe? On donne en mille, le GUD, le groupe Union Défense, voilà, organisation pseudo-étudiante réputée pour son activiste violent. Donc voilà, il est passé aussi par le Front National, ça vous donne tout un aperçu du programme. Et pour lui, son père spirituel n'est autre que Claude Armel. Et Claude Armel, c'est qui? C'est un ancien pro-nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait toujours rêver. C'est aussi un grand pote à la Madeleine. À la Madeleine qui était aussi à Occident. On a d'autres personnes. On a aussi Valérie Boyer, donc qui était porte-parole, je ne sais pas s'il y a eu encore du coup avec toutes ces affaires qu'il y a eu, qui, elle, a voulu faire inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution et interdire le port du voile en France. Elle a été de toutes les manifs pour tous. Elle défend avec ferveur Éric Zemmour et soutient les chrétiens d'Orient aux côtés de l'association SOS chrétien d'Orient, noyauté par l'extrême droite. On a aussi Anne Mo, qui est présidente d'une agence de communication, qui elle aussi est passée par le GUD. On a aussi, je vous l'ai fait vite fait, Gérard Longuet. Gérard Longuet, pas peine de le présenter, c'est pareil. Hein. Tête pensante d'Occident, voilà, qui s'est amusé dans sa jeunesse, hein, armé de bombes lacrymogènes et de poings américains, a défoncé une réunion, un meeting anticolonialiste, donc voilà, qui avait quand même fait par 200 chaises détruites, 2 blessés parmi les anticolonialistes et 5 interpellations dans ses rangs. Donc voilà, après il a rejoint le GUD, puis Ordre Nouveau. Et puis on peut aussi ajouter donc Patrick Stefanini, artisan du controversé ministère de l'immigration et de l'identité nationale à l'époque de Sarkozy, ou encore Bruno Retailleau, donc certains voient comme le futur éventuel Premier ministre. Je vous en trouve une ou deux sur lui quand même. En 97, d'après des archives de l'INA, il considérait par exemple qu'une société multiculturelle est une société forcément multiconflictuelle et disait son opposition franche à l'immigration. Il était proche de Villiers avant de partir et de venir plutôt du côté de l'UMP et maintenant des Républicains. Et en décembre 2013, il a déclaré sur scène que la loi Taubira était un texte qui cache derrière lui un projet de destruction de la société. On parle là, bien sûr, du mariage pour tous et toutes. Et en mars dernier, le conseil régional qu'il préside, a suspendu, devinez quoi, les subventions accordées au centre gay et lesbien LGBT de Nantes. Et en septembre dernier, il a accordé une interview au site identitaire de l'extrême droite, Brides Info. Donc voilà, tous ces beaux mondes entourent du coup
voilà, Fillon,
peut-être
il nous fait rêver, hein.
Le futur président de la République. Donc voilà.
T'engages pas trop.
Ah non, je m'engage pas trop, mais en tout cas, voilà, un des sérieux candidats qui, ouais, malgré des mises en examen nombreuses et variées, eh ben, continue de se présenter. Donc,
après,
voilà,
je sais pas quel candidat n'a pas de mise en examen variée aussi.
Oui, hein. Ça, on fera un petit point peut-être un jour, voilà, sur toutes les. Toutes
la question, ce sera de savoir lequel.
Voilà. Du coup, on va se laisser là, 21h04. Du coup, on rappelle du coup les permanences de la librairie. Ne me regarde pas comme ça, j'ai l'impression de qu'est-ce qui se passe, monsieur.
Du coup, le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 15 à 19h.
Donc voilà, les cours de langue, toujours le lundi soir de 18h30 à 20h30 à la librairie La Pluie Noire, au 8 rue Diderot, dans le premier arrondissement. Et puis, si vous voulez écouter les annonces, et ben vous refaites un replay sur le blog de l'émission. Et c'est au tout début de l'émission.
Et pour les commissions et pour nous contacter, n'hésitez pas non plus.
Donc voilà,
allez, mercredi.
À la semaine prochaine, notre réalisateur est très pressé.
J'ai rien dit, moi.
Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut.